Fun for You avec Parthenamut sur Fun Radio.
Et salut à tous, bienvenue dans Fun for You, votre podcast dédié à la santé, au bien-être et à la vie intime. Fun Radio. Et pour m'accompagner aujourd'hui, j'accueille Lérim qui est avec moi en studio. Salut Lérim.
Bonjour, bonjour à tous.
Alors tu es sexologue et thérapeute de couple, si je ne me trompe pas. Et on va s'intéresser à un sujet assez important qui prend de plus en plus de place dans nos générations. C'est les applications de rencontres qui ont finalement un petit peu réinventé la façon de faire des rencontres. On se souvient, nos parents peut-être à l'époque, ils nous expliquaient, ils se sont souvent rencontrés peut-être dans des balles de village, ouais, ce genre de choses. Mm-hmm. Et aujourd'hui, l'un des moyens les plus populaires pour rencontrer l'amour, c'est les applications de rencontres.
Absolument, oui. Aujourd'hui, rencontrer quelqu'un peut commencer par un geste très simple, un petit swipe sur une appli. En quelques minutes, on peut voir des dizaines de profils autour de nous, parfois même des centaines. Les applis de rencontres ont profondément changé la manière dont les rencontres commencent. Mais est-ce qu'elles ont aussi changé la manière dont on vit l'amour? Ça, c'est la question effectivement qu'on pourrait se poser aujourd'hui. Alors, je peux citer plein d'applications de rencontres, genre Tinder, Fruits, Bumble, Happn, Once. Alors, ce qui est chouette avec certaines applis, je pense que c'est Once, c'est que justement, ça t'évite de swiper à l'infini.
Ok.
C'est en fait, tous les jours, à midi pile, l'appli t'envoie un profil en fait qui correspond plus ou moins à tes critères. Parce qu'avant, je pense que t'as répondu genre à un questionnaire, etc. Et donc, au lieu de swiper, non, c'est une personne par jour. Et donc, ça évite justement ce côté un peu surconsommation.
Et j'ai l'impression, surtout sur des applications comme Tinder, qu'il y a un petit côté un peu gamification. Mmh. On aime bien d'enchaîner les matchs. Il y a des fois des dizaines de matchs qui sont en attente. On va pas leur parler, c'est juste un petit côté amour propre. Mmh. Je plais à peut-être une centaine de personnes avec qui j'ai eu un match. Alors qu'en réalité, c'est pas très positif finalement tout ça.
Non, c'est vrai qu'on met ça un peu de... On a tout ce stock comme ça, je suis pas sûr que ce soit forcément ça. Même pour son ego finalement, je suis pas sûr que ce soit forcément sain d'avoir ce stock de personnes. Au contraire, on commence à objectifier les gens. Et donc ça, je crois pas qu'au niveau de où en est notre humanité, on ait vraiment besoin de ça aujourd'hui.
Et est-ce qu'on peut dire qu'aujourd'hui, rencontrer quelqu'un sur une application de rencontre, c'est un peu devenu la norme? Mm-hmm. C'est quelque chose qui est un peu rentré dans les habitudes finalement.
Absolument, ouais. C'est vrai qu'aujourd'hui les applis ne sont plus du tout marginales. Chez les jeunes adultes, plus de la moitié des 18-29 ans s'y sont déjà connectés au moins une fois dans leur vie. Autrement dit, les applis sont devenues une manière ordinaire de rencontrer quelqu'un, mais elles ne remplacent pas complètement les rencontres via les amis, ça existe toujours. J'ai une pote qui... Ah, t'es célibataire, j'ai une pote qui machin cherche aussi, etc. Les rencontres au travail, il paraît que c'est la première rencontre, même encore aujourd'hui, mais malgré que les applications de rencontres aient pris autant de place dans notre quotidien, c'est vrai qu'aujourd'hui, le boulot, ça reste l'endroit où on rencontre plus facilement sa moitié. Et puis, il y a les fameuses soirées, quoi. Je sais pas, aller dans un bar, sortir, etc., boire un verre. Là aussi, c'est l'occasion de rencontrer quelqu'un. Mais c'est vrai que les applications viennent s'ajouter aux autres modes de rencontre. C'est une nouvelle manière de rencontrer.
Et j'ai l'impression que tout en temps, c'était assez tabou, les applications de rencontre. Ça avait quand même une image assez, assez négative. Aujourd'hui, tout ça, c'est du passé.
Ben, pas totalement, parce que je me rends compte que moi, en cabinet, donc moi, je suis sexologue thérapeute de couple. Et quand je reçois des couples, je leur demande souvent, de se présenter, etc. Mais je leur demande aussi, comment ils se sont rencontrés. Ouais. Et en fait, je sens toujours quand ils doivent... La plupart, sincèrement, un couple sur trois quand même me dit qu'ils se sont rencontrés via des applis. Et ils ont toujours cette gêne. On s'est rencontrés... on l'avoue, on s'est rencontrés sur Tinder, quoi. Donc il y a quand même... À chaque fois, c'est systématique, il y a cette gêne de dire quand même encore aujourd'hui. Et pourtant, je reçois des jeunes couples souvent. Hein, donc c'est souvent des gens qui ont moins de 40 ans, mais il y a toujours cette gêne de se dire qu'ils se sont rencontrés, parce que ça fait un côté un peu... j'étais un peu sur ça pour consommer, pour un peu de sexualité facile. Ouais. Et donc finalement, c'est devenu mon mec. Est-ce que c'est pas un peu la honte? Il y a un peu ce côté-là. Et donc, ouais, il y a cette gêne de partager le fait qu'on s'est rencontrés comme ça. D'ailleurs, moi, dans mon couple, on a deux versions. On a la version officielle, on a la version officieuse. Et on dit toujours aux gens, vous préférez qu'on vous raconte laquelle? Et on a celle, on s'est rencontrés sur une appli, nous aussi. Mais il y a aussi celle où on s'est inventé, genre, un peu une histoire de série Netflix, quoi. On est dans une bibliothèque, on prend le livre au même moment, comme par hasard. Enfin, il y a un peu ce côté-là. On s'est inventé une fausse histoire pour
c'est quand, très drôle ça.
Pour avec des gens pour qui c'est pas important ou qu'on connaît moins bien, on leur lâche un peu.
Mais c'est vrai que j'ai l'impression que tous les gens qui se sont rencontrés sur des sites de rencontres ont aussi la deuxième version, parce que même pour expliquer à des personnes un peu plus âgées, c'est un peu compliqué de leur dire on s'est matché sur Tinder. C'est un peu des mots qu'ils ne connaissent pas. Par exemple, les grands-parents, je pense à eux.
Oui, par exemple. Et même finalement, les parents, de se dire t'as rencontré ta copine sur Tinder, bon, bah, est-ce que c'est un truc vraiment sérieux, est-ce que ça vaut vraiment la peine? Si ton copain était sur Tinder, ça veut dire qu'il a enchaîné des rencontres. Est-ce que t'es sûr que c'est quelqu'un de sérieux? Donc finalement, même à nos parents qui sont un peu inquiets parfois, on n'ose pas leur dire qu'on a rencontré notre moitié sur les applications de rencontres.
Alors on le sait, sur les applications de rencontres, on en parlait il y a quelques minutes, il y a un choix infini, il y a des centaines et des centaines et des centaines de profils. C'est quoi les témoignages qu'on peut retenir des gens qui utilisent finalement ces applications? Ils en pensent quoi concrètement?
Mais c'est vrai que la plupart des utilisateurs et utilisatrices ont effectivement, comme tu le dis, cette idée de choix infini. Certaines personnes décrivent les applications de rencontres comme un espace avec beaucoup trop d'options. Moi, ça me fait un peu penser comme quand on va... Moi, j'ai un peu ce feeling-là quand je vais au supermarché.
Ouais.
Je vois que je dois choisir, je sais pas moi, le produit à lessiver. Il y a tellement de choix que je sais pas lequel choisir, quoi. Quelle odeur, quelle marque, est-ce que je prends le moins cher, est-ce que le moins cher c'est aussi bien que celui qui a pris plein, est-ce que du liquide, est-ce que de la poudre, donc il y a un peu ce côté-là.
Ouais, je vois complètement.
C'est un peu ce qui est ramené, ça peut donner l'impression que l'engagement est moins nécessaire et on peut toujours trouver quelqu'un d'autre. Il y a toujours cette idée, c'est pas lui, ce sera un autre. Il y a cette idée, on peut toujours trouver quelqu'un d'autre.
Et j'ai l'impression qu'il y a aussi des nouveaux phénomènes qui sont arrivés avec les applications de rencontres. On parle souvent du benching, par exemple. Le fait de se dire, j'ai une personne qui pourrait potentiellement me plaire ici, mais j'ai une personne qui me plaît plus ici. Mm-hmm. Mais au lieu de mettre de côté la personne qui pourrait potentiellement me plaire, je vais continuer à discuter avec, de façon une fois de temps en temps, etc., pour la garder, pour si jamais, avec la personne qui me plaît plus entre les deux, ça ne fonctionne pas, je peux revenir vers l'autre.
Ouais, t'imagines à quel
c'est
point
quelque c'est... chose d'un peu cruel, quand même.
Cruel, et même, je me dis... peut-être même d'un côté un peu malsain, parce que finalement tu vas te lancer dans une relation avec quelqu'un avec qui tu l'avais mis un peu en stand-by.
Ouais.
C'était un peu ton deuxième ou ton troisième choix.
Et la personne, elle est dans l'attente sans spécialement savoir ce qui se passe, parce qu'en plus, comme on n'a pas d'échange, des fois ça reste uniquement du virtuel, donc
absolument.
On se dit, c'est peut-être plus facile de parler à travers un écran, mais c'est aussi plus facile de cacher des choses à travers un écran.
Ouais.
Donc ça crée un petit peu un environnement un peu malsain.
Totalement. Et ça me fait aussi penser à un témoignage où une femme m'expliquait que lorsque la rencontre se passe par Internet, donc les applications de rencontre par exemple, mais ça peut être aussi les réseaux sociaux. Parfois, c'est pas forcément que les applications de rencontre. Il y a aussi, on voit sur Snapchat, sur Instagram, etc., on voit aussi que certaines personnes cherchent à rencontrer ou à draguer. Elle me disait que certains hommes, en fait, ont l'impression qu'ils peuvent tout se permettre, car ils savent que si elle me ghost, si elle me balance, si elle me dit que je vais trop loin, mais c'est pas grave, il y a d'autres femmes, il y a d'autres options. Ça change complètement, je trouve, la dynamique du début des relations, notamment ce que toi, tu relevais avec le fait que finalement, j'étais le troisième choix de ma petite copine, ou comme ici, comme témoignage de cette femme où elle dit que finalement je me retrouve avec quelqu'un qui se permet tout en début de relation, alors que si on s'était pas rencontré via Internet, il se serait pas permis autant de choses.
Et je pense aussi qu'un des gros problèmes sur la grande majorité des applications de rencontres, c'est que le physique passe avant tout le reste finalement.
Oui.
Quand on s'amuse à swiper à droite ou à gauche, c'est assez rare de prendre le temps de lire toutes les descriptions pour se dire oui, alors
absolument.
Là la personne me plaît, mais avant de swiper vers la droite ou vers la gauche, je sais plus trop dans quel sens ça va. Mais avant de liker la personne, je vais peut-être pas prendre le temps de lire sa description. Et c'est au moment du match que je me rends compte que finalement, cette personne, quand je lis sa description, c'est pas du tout ce que je recherche. On a beaucoup de points qui vont pas du tout ensemble. Donc le physique, finalement, est super important sur ces applications, alors que dans la vraie vie, on apprend peut-être plus à connaître les gens, leur personnalité, etc. Alors oui, on voit le physique, c'est quelque chose qu'on voit et qui est présent, fort présent dans la société, mais ça reste quelque chose qui peut passer au second plan quand on rencontre quelqu'un en vrai.
Alors qu'en fait, en réalité, oui, évidemment, le physique, on va pas se leurrer, rentre en compte aussi, mais ce qui rentre beaucoup plus en compte dans le réel, c'est justement la petite fossette, c'est le charme, c'est l'aura, c'est sa manière de se tenir, la voix, quelle voix.
J'allais dire, la voix, l'odeur, c'est des éléments super importants.
Et ça passe, en fait, on se rend compte, on le voit dans les études, que ça passe au-dessus du physique. musique. Et en fait, tout ce paralangage, finalement, tout ce qu'il y a autour de cette image, etc., on voit que finalement, bah, ça n'existe pas dans ces applications de rencontre et on perd un élément important quand même dans cette idée de se connecter à quelqu'un.
Et puis les photos qui sont toujours bien sélectionnées, alors ça, c'est quelque chose d'assez normal, mais on se met toujours fort en avant, on peut retoucher les photos. Aujourd'hui, avec l'intelligence artificielle, en plus, les photos, on peut vraiment tous les retoucher assez facilement. Donc il faut aussi faire attention à ce qu'on peut trouver sur les sites de rencontres.
Ça me fait penser à mon frère s'était mis sur une application de rencontre et on regardait un peu les profils et alors j'étais fasciné de voir que 90% des profils féminins, mais c'était franchement en grande majorité des femmes séduisantes, jolies, qui prennent soin d'elles, etc. Et chez les hommes, c'était l'inverse. 90% étaient mais dégoûtants, limite pas lavés. Enfin, je me disais, oh là là, mais les hommes font pas du tout d'efforts, en fait, quand ils s'exposent comme ça sur les applis. Parfois, c'est vraiment des photos horribles. Et donc là, on voit aussi une grosse différence qui vient finalement peut-être répondre aussi à certains stéréotypes, hein, où la femme doit être désirable et l'homme peut-être doit l'être moins. Mais ça, c'est à chaque fois, je trouve, fascinant d'observer cette différence entre les hommes et les femmes.
Alors, il y a un phénomène qu'on observe sur ces applications de rencontres, c'est le fameux entonnoir des rencontres. C'est quoi ça exactement? Tu peux nous en parler?
Eh ben, en fait, c'est ce pourcentage qui se réduit finalement sur les applications de rencontres. 92% des utilisateurs et utilisatrices discutent avec quelqu'un, donc là, un simple chat, quoi. Mais seulement 66% rencontrent réellement quelqu'un, donc déjà ça se resserre, et puis finalement que 23% des échanges mènent à une relation. Alors relation, là justement dans ces 23%-là, on voit que finalement il y a un tiers où ces rencontres deviennent sexuelles, des relations juste sexuelles, et seulement 15%, donc on voit à quel point ça se réduit, donc c'est pour ça qu'on appelle ça l'effet entonnoir, et seulement 15% deviennent une relation de couple.
Ok, d'accord, donc c'est vraiment une minorité sur tous les matchs qu'on peut... qu'on peut avoir sur ces applications.
La discussion, bah, c'est vraiment, c'est que tout le monde. Et en revanche, arriver à une relation sexuelle et puis une relation de couple, effectivement, ça se réduit vachement. Donc il y a énormément de matchs, de messages et de conversations, mais relativement peu finalement de relations.
Ça m'étonne pas en fait. Plus ça devient sérieux, moins il y a de monde, j'ai envie de dire. Parce que entamer une conversation à travers un écran, c'est quand même quelque chose d'assez accessible pour plus ou moins tout le monde, pour les gens plus timides aussi par exemple, je pense à eux.
Oui, mais c'est très énergivore aussi. Il y a un côté énergivore, un côté stressant aussi. Je sais que j'ai certains patients qui me disent, certains patients célibataires qui viennent chez moi en consultation, pas forcément pour le fait d'être célibataire, mais ils me disent que se sont inscrits sur une application de rencontre et ils me disent à quel point ça génère du stress, quoi, de ne pas avoir la réponse, de quand il y a une réponse, voir si c'est la fille à qui ils avaient écrit, le temps que ça prend. Ça prend énormément de temps aussi de répondre, chatter, etc. Et alors, je constate aussi qu'il y a de moins en moins de jeunes qui veulent aller sur les applis. En tout cas, dans ceux que je reçois, dans les personnes que je reçois, je me rends compte qu'il y en a beaucoup qui disent j'ai arrêté les applis, j'en ai marre, je veux plus, je veux rencontrer quelqu'un dans la vraie vie. Je sais pas comment, mais je veux rencontrer quelqu'un dans la vraie vie, je veux plus passer par les réseaux.
On a un sentiment de liberté hein, quand on va sur les applications de rencontres et pourtant, on a déjà un petit peu parlé, mais il y a plein d'incertitudes dans cette liberté.
Oui, non, c'est vrai que les applis offrent une grande liberté. On rencontre finalement qui on veut, on arrête finalement une relation très facilement.
Ouais, il suffit de bloquer la personne, c'est assez simple.
Absolument, et on peut recommencer ailleurs.
Ouais.
Donc en fait, c'est ça l'idée d'un peu de cette sensation de liberté. Mais cette liberté, effectivement, comme tu le dis, elle amène beaucoup d'incertitudes. Par exemple, quelqu'un peut disparaître du jour au lendemain, arrêter de nous répondre ou annuler un rendez-vous avec le fameux ghosting.
Ouais.
Qui est vraiment, je trouve ça aujourd'hui, psychologiquement, c'est très très douloureux.
Donc pour expliquer un peu pour les gens qui ne savent pas ce que c'est le ghosting, c'est l'idée de disparaître du jour au lendemain de la vie d'une personne, sans explication si je ne me trompe pas.
C'est ça.
C'est, j'en ai marre de te parler, je disparais, je te bloque de partout et tu n'auras plus jamais de mes nouvelles.
Il y a cet effet-là, puis il y a le ghosting aussi où je ne te bloque pas, on a vu que j'ai lu ton message, je suis toujours présent, je suis toujours actif sur les réseaux, donc tu me vois, c'est ça qui est très dur dans le ghosting, c'est que tu me vois présent, j'ai lu ton message, j'échange avec d'autres personnes, je poste des vidéos, etc. Mais à toi, je ne te réponds plus jamais. C'est une cruauté sans nom, quoi. C'est presque de la torture, finalement.
Les règles du jeu, si on pouvait les appeler comme ça, sur ces applications de rencontres, elles sont très floues.
Oui, totalement. Dans les rencontres traditionnelles, certaines règles sociales existaient. Qui appelle qui, à quel moment on s'appelle, comment montrer son intérêt. Dans les rencontres via les applis, ces règles sont beaucoup moins claires. Certaines personnes disent ne plus savoir si l'autre est intéressé ou pas intéressé, si le rendez-vous s'est bien passé ou pas, si la relation va continuer ou pas. Les intentions deviennent parfois plus ambiguës et nécessitent davantage de communication explicite. Il faut vraiment pas avoir peur quand on est via les applis d'être plus explicite. Je pense notamment à tout ce qui est consentement aussi.
Ouais.
Donc, faut vraiment pas hésiter dans tout ce qui est application à être beaucoup plus explicite. Je pense aussi, par exemple, à tout ce qui est dick pic. C'est souvent des hommes qui envoient leur partie génitale à des femmes ou à des hommes, peu importe, mais c'est souvent sans consentement. Et donc, parce qu'il y a un lien ou parce qu'il y a un petit, on s'est un peu chauffé ou parce qu'il y a un peu d'érotisme dans les messages. Parfois pas. Hein. Parfois, certains hommes, entre guillemets, beaufs, n'attendent même pas ça. Mais d'autres se disent, bah voilà, il y a une forme de petit érotisme. J'envoie une photo de mes parties génitales. Et ben voilà, c'est de l'agression clairement sexuelle, même si c'est virtuel, ça reste de l'agression sexuelle. Et donc là, faut vraiment pas avoir peur d'être beaucoup plus explicite, de demander le consentement et d'être justement peut-être que l'écran peut permettre d'être plus direct quand on demande certaines choses, quoi.
Si je ne me trompe pas, je pense qu'il y a pas mal d'applications, notamment Instagram, qui ont mis en place des filtres qui détectent ce genre de photos et qui demandent à la personne quand elle la reçoit si elle veut vraiment voir ce contenu. Alors, je ne sais pas ce qu'il en est sur toutes les applications de rencontre, parce que je sais qu'il y a certaines applications de rencontre qui ne mettent aucun frein par rapport à ça. Mais donc, le consentement, ça reste ultra, ultra important, bien sûr, sur ces applications de rencontre. Mmh. Tu fais bien de le préciser. Est-ce que les expériences sont différentes sur ces applications selon les genres ?
Tout à fait. Les recherches montrent aussi que les expériences sur les applis ne sont pas les mêmes pour tout le monde. Par exemple, les femmes reçoivent souvent plus de sollicitations,
okay.
Mais elles subissent aussi, comme on vient de le dire, elles subissent aussi davantage de harcèlement et de messages sexuels non sollicités. Les hommes, eux, vivent plus souvent l'absence de réponse. Et on voit finalement que ces applications de rencontre, elles reproduisent aussi certaines inégalités sociales et de genre. Et alors, ce qui est intéressant aussi à observer, c'est qu'il y a le genre / l'âge, on se rend compte que finalement, les hommes très jeunes, enfin, qui ont entre 18 et 23, 24 ans, sont moins sollicités, ont moins de succès sur les réseaux. Okay. Et chez les femmes, c'est plutôt les femmes qui ont plus de 50 ans. Donc là, on voit une forme de grosse différence. À partir de 25 ans, pour les hommes, ça progresse, entre guillemets, où ils ont plus de réponses. Et pour les femmes, à partir de 50 ans, effectivement, on voit que les réponses ou les sollicitations diminuent.
Comment on pourrait conclure finalement cette discussion ? Est-ce que rencontrer l'amour, on a déjà un peu répondu aussi à cette question, c'est toujours possible sans les applications ? Est-ce que c'est un passage obligatoire ? Est-ce qu'il y a quand même des choses positives à retenir de toutes ces applications ?
Mais les applications de rencontre n'ont pas supprimé l'amour, donc ça déjà on peut en être rassuré, mais elles ont changé la manière dont les relations commencent. C'est ça en fait, c'est vraiment par rapport au début des relations. Elles offrent plus de liberté, plus de choix, certes, mais aussi plus d'incertitude. Et au final, malgré toute la technologie, ce qui reste au cœur des rencontres, c'est toujours la même chose, c'est la recherche d'une connexion humaine.
Et c'est finalement ce qui est le plus important quand on cherche l'amour. Merci Lérim en tout cas d'être venu me voir ici sur Fun Radio, c'est un réel plaisir de te recevoir.
Partagé.
Et puis on se retrouve très très vite.
À bientôt.
Retrouvez Fun for You avec Partenamut
en podcast sur le site et l'appli Fun Radio BE.